Pauline Pucciano, Le Porphyre et l'Albâtre. Chapitre 14. Morceau de bravoure. La cité d'Albâtre, toute pavoisée, célébrait la 7e édition du Festival des Âges. L'excitation, comme une brise, empourprait les joues, agitait les drapeaux, faisait tomber les fleurs et soulevait les toges. Ce jour férié, où les travaux d'intérêt général étaient suspendus, était dédié à l'art autant qu'à la joie de vivre, et le palais de l'abondance, où l'on avait mis les bouchées doubles depuis plusieurs jours, regorgeait de victuailles offertes, sans personne pour les servir. Les citoyens avaient pris l'habitude, lors des jours fériés, de se promener dans la ville au matin, afin d'admirer les décorations ingénieuses que l'on avait mises aux façades des palais, et surtout le mobilier urbain. Vêtements de papier colorés sur les statues, poèmes gigantesques calligraphiés sur les murs, broderies fines et guirlandes de fleurs qui, partout, manifestaient le goût du beau et de la fête. Les citoyens eux-mêmes participaient à ce carnaval de formes et de couleurs, par des costumes excentriques. On murmurait partout pour hasarder des conjectures sur la tenue choisie chaque année par Aélénor. L'an passé, elle avait une somptueuse robe de plumes pourpres qui était venue tout exprès de Porcilla et que la foule avait acclamée. C'était sans doute le seul jour de l'année où elle s'autorisait la coquetterie, et le faste avec lequel elle le faisait emplissait d'aise ses concitoyens. Albâtre était prospère, Albâtre était en paix. Cette célébration avait toute la force d'une conjuration et d'un défi lancé à l'avenir. Le festival en lui-même commençait en fin de matinée et se poursuivait jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le concours avait lieu d'abord, puis suivait une multitude de spectacles divers, chants, scénettes, acrobaties et jongleries. En cette période d'équinoxe, la nuit tombait assez tôt pour que les dernières présentations se fissent à la lueur féerique des vasques. Tout le jour, des étudiants et des vétérans s'opposaient dans des joutes multiples. Interprétation et composition musicale, improvisation poétique, jeu théâtral, combat de ce temps, athlétisme, pratique du verbe, résistance à la douleur, peinture, art culinaire, calligraphie. Si la jeunesse l'emportait en fin de journée, les jeunes gens étaient libérés de toute obligation sociale pendant 5 jours entiers. Si la jeunesse perdait, les étudiants recevaient un gage collectif à accomplir au bénéfice de la cité. L'an passé, on leur avait demandé de transformer en jardin d'agrément l'un des terrains extérieurs qui bordaient la ville, et cette corvée collective et excentrée n'avait pas été très pénible. Les défis devaient s'enchaîner sans relâche devant la foule changeante du théâtre et surtout devant les membres du jury présidés comme chaque année par Aélénor. Elle avait bien essayé cette fois-ci de se dérober à cette obligation et de participer plus simplement à la fête, mais devant la résistance unanime à ce manquement à la tradition, elle s'était résignée. Vêtue d'un costume irisé qui imitait les écailles d'une carpe argentine, elle trônait souriante, assistée de 4 jeunes gens à sa gauche et de 4 anciens à sa droite, qui composaient les membres du jury. Parmi les citoyens tirés au sort se trouvaient Gretel et Sadric. « Gretel, viens t'asseoir auprès de moi, la journée sera longue », avait proposé à Aélénor. La jeune fille avait accepté avec grâce. « Le sort a mal choisi en me proposant pour le jury », remarqua-t-elle. « Pourquoi ?» « Parce que j'ai horreur de la compétition, » dit Gretel. « Tu es resté profondément imprégné de la philosophie des spiritualistes, » observa Aélénor. « C'est bien. »« Vous avez connu Naïma ?» demanda Gretel. « Oui. Elle m'a fait comprendre toutes mes contradictions, à un âge où j'avais besoin de les connaître. Et elle a changé ma manière de voir beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas spiritualiste. Non. Je n'ai jamais pu, ou jamais voulu, me départir d'un certain individualisme. » Les spiritualistes sont aussi plus critiques face à l'art, ils ne jurent que par la nature. Et toi, Gretel? Moi? Qui es-tu devenue? Quelle sera ton œuvre? Gretel parut hésiter un instant, et leur attention fut attirée par les festivités d'ouverture. on commençait la journée par des démonstrations ludiques. Pour l'heure, au son d'une musique rythmée, des chafouins dressés rivalisaient d'adresse et d'impertinence pour le plus grand plaisir des badauds qui commençaient à faire foule. « Je souhaite me consacrer aux soins de l'âme et du corps. Tu veux devenir médecin ?»«
Oui. » »«
Et Artus ?» demanda à Eleanor, songeuse. « Quelle sera son œuvre ? En parlez-vous quelquefois ?»«
Ce n'est pas à moi de vous le dire, à Eleanor. »«
Je sais, mais il ne semble pas encore sorti du devenir, à ce qu'il me dit. »
Vous ne le croyez pas ?
Je crois que mon fils est, et a toujours été, beaucoup plus grand et beaucoup plus profond qu'il ne le paraît. Et je crois qu'il connaît son œuvre, mais moi, je ne la connais pas. Gretel sourit. J'aime votre fils, madame. Nos chemins ne se sépareront pas. À Eleanor la considéra un instant. J'en suis très heureuse, dit-elle. Gretel sourit puis repartit. Vous dites mon fils, comme si vous n'en aviez qu'un. Je ne connais que trop l'œuvre de Nox.
« Vraiment ? Le pouvoir est son œuvre.
N'est-ce pas aussi la vôtre ?» À Eleanor prit cette question en plein cœur. Si cette jeune fille avisée et sensible pouvait penser cela d'elle, n'était-ce pas la vie commune, l'image qu'elle renvoyait malgré elle à toute cette foule ? Tous ces gens à qui elle avait sacrifié une grande part de sa liberté personnelle, tous ces gens pensaient-ils qu'elle s'accrochait au pouvoir ? Était-ce ce que Keller pensait d'elle ? « Ma question vous a troublée, dit Gretel. » « Je vous en prie, veuillez me pardonner, dit-elle en faisant luire sa pierre frontale. Je sais que l'exercice du pouvoir est un fardeau dont vous aimeriez vous délasser. »«
La cité est mon œuvre, répondit à Eleanor un peu froidement. Son organisation, sa prospérité, son unité, sa paix. Le pouvoir n'est pour moi qu'un outil pour façonner le monde, pas une fin en soi. »«
Je sais, je suis désolée, je ne voulais pas insinuer que... »«
Ça va, dit à Eleanor en souriant.
L'amour infini que j'ai pour mon fils rejaillit sur toi. » Et je te pardonne et te bénis. » Il n'y avait rien à répondre à cela. La lumière d'Eleanor n'avait brillé que fugitivement, mais sa bénédiction était entrée profondément dans l'âme de la jeune fille, qui éprouvait maintenant envers elle une gratitude filiale. « La compétition est source d'intérêt, dit à Eleanor. Elle permet de mettre la vie en récit, de dramatiser les grands conflits qui dorment dans les cœurs, de tendre la corde du temps comme celle d'un arc. » Gretel, qui ne voulait pas la contredire, se contenta de sourire poliment, et elles se tournèrent bientôt vers la première joute qui se préparait. « Par quoi commence-t-on » demanda Cédric à la cantonade. Ce fut Aumont, du premier rang des spectateurs, qui lui répondit en consultant un programme écrit à la craie sur une grande ardoise qui se trouvait à côté de lui. « Un duel poétique entre Nox et son professeur, Crécia. Oh, cela promet du piquant !» Aumont se pencha, et Cédric se leva un instant pour échanger quelques mots.
« Alors, Aumont, la vie publique ne vous manque pas trop ?»«
Non, par l'esprit, c'est plutôt le contraire. J'ai fait un grand effort sur moi-même pour accepter ce bain de foule aujourd'hui. »«
Vous êtes encore très respecté, vous savez. Vos apparitions sont toujours saluées avec plaisir. Vous avez toujours fait preuve de sagesse et de mesure lorsque vous étiez aux commandes. À Eleanor ne vous a jamais demandé de revenir ?»
Aumont regarda furtivement dans la direction d'Eleanor, dont la robe d'écaille étincelait singulièrement aux rayons du matin. « Elle n'a pas besoin de moi pour gouverner, dit-il avec admiration. Elle paraît sans cesse gagner en beauté, en force et en indépendance. »«
Ouf, on se lasse des plus belles filles et des meilleurs plats, observa laconiquement Cédric.
Sentez-vous un vent qui lui serait contraire ?
Non, rassurez-vous, dit Cédric en regrettant son épigramme, sa pierre frontale luisant à peine.
Il fut tiré d'embarras par l'arrivée en lice des deux adversaires, qui l'obligea à se rasseoir. Nox, avec sa désinvolture accoutumée, vêtu d'une toge noire traditionnelle, semblait ne pas entendre les acclamations qui marquaient autant l'excitation de l'ouverture de la joute que la sympathie spontanée que les citoyens lui portaient. Il était le rescapé, la victime, qui avait, à force de caractère, fini par dépasser l'enfant chéri de la cité. Il avait plus d'éclat, plus de séduction qu'Artus, et son impertinence, que l'on disait héritée de sa mère, était en général traitée avec beaucoup d'indulgence. D'ailleurs, il était le seul à participer au Festival des Âges. Artus, dans son éternelle recherche de l'ombre, ne s'y inscrivait jamais.
« Comme vous le savez, chers concitoyens, clama Crécia d'une voix forte pour obtenir le silence, la joute d'improvisation poétique est un exercice très simple. Le jury tirera au sort le maître choisi, la rime, ainsi que celui de nous deux qui aura l'initiative. Puis, nous composerons ensemble un poème de 12 vers, en alternance. Cher jury, nous sommes prêts. »
Un jeune homme à côté de Gretel annonça. « Le maître choisi est le décasyllabe. »
Cédric annonça. «
Les rimes seront embrassées en âtre et war. Eleanor termina. Le premier vers est donné à Chrysia. Le temps de latence entre les vers sera pris en compte par le jury, ainsi que la richesse des rimes, l'élégance de la tournure et la cohérence globale du texte. Le candidat devra reprendre l'ensemble du poème avant d'y ajouter son vers. Un même mot ne peut être choisi à la rime plus d'une fois. Que le meilleur gagne. Chrysia avait profité du rappel des règles pour mettre au point son premier vers, qui ne se fit pas attendre. Sa pierre frontale s'était allumée et devait rester allumée pendant toute l'opération, car les jouteurs soutenaient simultanément deux efforts, un effort de mémoire et un effort de création, et l'esprit les y aidait puissamment. L'incapacité spirituelle de Knox apparaissait d'ailleurs à beaucoup de spectateurs comme un handicap insurmontable. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Chrysia, soutenue par l'esprit, se posait des questions et y répondait à une vitesse vertigineuse. Knox avait souhaité se mettre en scène. Fallait-il qu'elle fasse de même, ou bien devait-elle accepter ce sujet et essayer de le prendre à son propre piège? Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir... Knox, dont le front nu attirait toute l'admiration, souriait finement à chaque nouveau vers de Chrysia et prenait le temps de déclamer le poème en y mettant des effets oratoires. Chrysia était concentrée sur sa tâche, mais lui parvenait à penser au public et à lui donner du spectacle. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent, comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir dans les rangs serrés de l'amphithéâtre. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir, dans les rangs serrés de l'amphithéâtre, les sentiments de la cité d'Albâtre. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir, dans les rangs serrés de l'amphithéâtre, les sentiments de la cité d'Albâtre partagés entre le doute et l'espoir. Chrysia était perturbée par la rapidité et la fluidité avec laquelle son élève lui renvoyait la balle. Il était presque impossible qu'un enfant de 15 ans, sans le recours de l'esprit, manifestât une telle aisance. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir, dans les rangs serrés de l'amphithéâtre, les sentiments de la cité d'Albâtre partagés entre le doute et l'espoir. Son art, son fiel, son mépris opiniâtre. Il y eut un murmure de désapprobation et d'excitation devant cette attaque en règle, mais Knox, loin de se démonter, sourit de manière plus accentuée. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir, dans les rangs serrés de l'amphithéâtre, les sentiments de la cité d'Albâtre partagés entre le doute et l'espoir. Son art, son fiel, son mépris opiniâtre des conventions figées et des devoirs. La pirouette était élégante et quelques sifflets graves fusèrent. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir, dans les rangs serrés de l'amphithéâtre, les sentiments de la cité d'Albâtre partagés entre le doute et l'espoir. Son art, son fiel, son mépris opiniâtre, des conventions figées et des devoirs, portent le sceau d'un amour du pouvoir. Chrysia rayonnait maintenant, contente d'elle. Cette dernière rime en âtre était impossible. Elle le mettait au défi d'achever le poème avec élégance. Knox réfléchit longtemps, plus longtemps qu'il n'eût fallu sans doute, et il gagna encore du temps en déclamant lentement l'ensemble du poème. Face à la foule indomptable et folâtre, l'adolescent fait flamber sa mémoire et met en scène sa troublante histoire où les drames se nouent comme au théâtre. Il tente vainement d'apercevoir, dans les rangs serrés de l'amphithéâtre, les sentiments de la cité d'Albâtre partagés entre le doute et l'espoir. Son art, son fiel, son mépris opiniâtre des conventions figées et des devoirs, porte le sceau d'un amour du pouvoir et d'un génie pour débattre et combattre. La foule se répandit en sifflets et en rires. La joute avait été tendue et d'une grande qualité. Chrissia et Nox, conformément à la coutume, se serrèrent la main, et nul ne vit que Nox broya presque la main de son professeur dans la sienne, la forçant même à utiliser l'esprit pour maîtriser les manifestations de sa douleur. Ceux qui remarquèrent cette utilisation de l'esprit l'interprétèrent comme une manière de gérer la frustration d'avoir dû s'incliner devant son élève, et cela ne fit guère honneur à Chrissia. Après une courte délibération, Eleanor prit la parole. Le jury a remarqué quelques fautes poétiques, deux vers faibles du point de vue de la rythmique, le troisième de Chrissia et le huitième de Nox. Nox a proposé une rime féminine, avec mémoire, et une rime orthographiée différemment, avec combattre. Chrissia a proposé une rime féminine avec histoire et a commis une incohérence. Dans l'énumération « son art »,« son fiel », »,« son mépris opiniâtre », on peut déplorer que le premier terme soit amélioratif et les deux autres péjoratifs. Le jury a procédé au vote et a voté pour Nox à 4 voix contre 3. Il y eut une ovation de la part des jeunes gens, et Nox, avec son éternelle désinvolture, salua très bas et rejoignit Tibère et Cléo en sautant prestement de la scène. Keller, Artus et Daïla arrivèrent juste à cet instant. « Tiens, on dirait que Nox vient encore d'humilier sa victime favorite, » murmura Artus. « Il est si brillant, » dit Daïla. « Je suis fière de lui. Pourquoi ne te présentes-tu jamais au Festival des âges, Artus ?»« J'ai bien autre chose à faire que de me mesurer à mes aînés, » dit-il distraitement. Son regard, invisiblement soutenu par l'esprit, sondait la foule, et il repéra en quelques secondes toutes les personnes qu'il connaissait, toutes les situations sociales qui s'étaient créées. À Eleanor, Gretel, Sadric, Aumont, à proximité du jury. Tibère, Cléo, Félix et Nalini, dans la fosse, devant la scène, faisaient court autour de Nox. Cardone, qui les avait repérés de loin et marchait dans leur direction. Marvan et Soleia, qui arrivaient à l'instant mais par l'autre entrée. Daphnae, qu'on apercevait de temps en temps à travers les voilages des coulisses, qui se préparait sans doute à entrer en scène. Et une foule de citoyens allègres, le sourire aux lèvres et la toge fleurie. Artus se détendit quelque peu. Rien ne paraissait sortir de l'ordinaire. Il avait redouté ce mouvement de foule, sans bien savoir pourquoi, et se sentait soulagé de voir que Sornard jouait plus que jamais son rôle. L'heure de tomber le masque n'était pas encore venue. « Tout va bien ?» demanda Keller. « Oui, ne t'inquiète pas, je ne le quitte pas des yeux. Tu peux parler avec Cardone, il arrive pour te voir, juste sur ta droite. » Keller, interloqué, se tourna vers sa droite et vit en effet Cardone qui se frayait, non sans difficulté, un chemin dans sa direction. « Maître Keller, » dit-il affectueusement. Keller le serra un instant contre lui, par une effusion qui n'était guère protocolaire, mais dont il ne s'était jamais départi avec ses frères d'armes. « Regarde-toi, » dit Keller, « un homme fort !» Cardone sourit. Lui et Keller se voyaient rarement, car après tout, ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Mais cela n'empêchait pas entre eux une affection sincère, et toutes les fois qu'ils se rencontraient par hasard, quelque chose passait entre eux qui ne s'effaçait qu'au bout de longues heures. « Ma femme vient d'accoucher du second, » dit fièrement Cardone. « C'est formidable, toutes mes félicitations. » »« Nous sommes passés bien près de la mort sous cette montagne. J'ai toujours eu le sentiment depuis que nous devions donner du sens à notre survie. » Le visage souriant de Cardone s'assombrit à l'évocation de ce souvenir traumatique. Cette présence, Keller, capable de faire s'écrouler une galerie. J'y pense parfois, et je me dis que nous n'avons pas pu la détruire. Keller le regarda au fond des yeux, un long moment, avant de répondre. « Moi aussi, Cardone, j'y pense, et cela me fait peur. » Cardone secoua la tête comme pour chasser un mauvais rêve. Il ne servait à rien d'en dire davantage. Les deux hommes n'avaient fait que partager un souvenir qui les hantait, et ce partage fugitif avait renforcé encore ce lien profond et invisible qui les liait l'un à l'autre. Les murmures de la foule leur apprirent que quelque chose se passait du côté du festival, et Cardone laissa fuser un sifflet grave lorsqu'ils aperçurent Daphnae entrant en scène. « Elle est si belle, » dit le jeune homme, admiratif. « J'assiste à toutes ses pièces. » Keller, en la voyant, fut pris d'un intense sentiment de regret, assorti d'un désir physique soudain et presque douloureux. Les paroles de verbe de Daphnae revinrent alors à sa mémoire. « Vous venez de passer à côté des plus belles heures de votre vie. Le regret vous mordillera de sa dent pointue à chaque fois que vous m'apercevrez, et votre sexe se rebellera à chaque fois contre la frustration que vous lui avez injustement imposée. » Keller utilisa l'esprit pour calmer ses ardeurs involontaires, exaspéré de constater qu'il n'avait aucune prise sur la vengeance qui s'exerçait sur lui. Elle ne se rendait même pas compte. Elle était là, rayonnante en sa maturité, faisant paraître pâles et gauches toutes les jeunes filles qui l'avoisinaient. Toutes, et surtout la jeune Cilliane, qui se mesurait maintenant à elle dans l'exercice du théâtre. Daphnae devenait, dans sa robe fauve assortie à ses cheveux roux, l'incarnation d'une féminité épanouie, pleine et débordante. Cilliane, dans une terne toge blanche, ses cheveux fins relevés en un chignon tressé, semblait un astre discret, éclipsé par une lumière trop vive. Keller, cependant, ne leur accorda qu'une attention de courte durée et laissa glisser son regard insensiblement vers Aelenor. Elle paraissait à la fois détendue et concentrée, son sourire bienveillant légèrement figé. La lumière oblique qui tombait sur sa joue éclairait sa cicatrice, toute blanche et exsangue dans le village hâlé. Keller se souvint brusquement de la cicatrice rouge et enflée sur son visage brûlant de fièvre lorsqu'elle s'était présentée à la frontière. Il se souvint de leur première conversation et ne put s'empêcher de sourire. Elle avait été arrogante et cassante et têtue. Il avait été désobligeant et rogue. Mais comme cette première dispute restait chère à son cœur, se pouvait-il que leur éloignement actuel ne fût que l'une des nombreuses aspérités de leur amour anguleux? Se pouvait-il qu'il ne fût qu'un accident et qu'il pût un jour en sourire? Aelenor était à cet âge incertain où les femmes se métamorphosent sans cesse au fil des circonstances. Paisible et rafraîchie, elle retrouvait la beauté de ses 20 ans. La fatigue, la maladie, les soucis lui faisaient prendre plusieurs années en quelques heures. Le soir, au miracle de la lumière du feu, qui noyait les contours amollis de sa bouche et les rides autour de ses yeux, elle renaissait à une éternelle et mystérieuse jeunesse, et sa voix, devenue plus profonde avec l'âge, prenait des accents caressants qu'elle n'avait jamais eus. Keller fut tiré de sa contemplation mélancolique par la voix de Daphnae qui s'éleva, avec une force incomparable, et se déploya dans tout l'amphithéâtre. La malheureuse Cilliane avait récité son texte sans déranger Keller, mais il n'était pas possible de ne pas écouter et regarder Daphnae lorsqu'elle déclamait. Il s'agissait d'un texte tragique, dont elle maîtrisait parfaitement les moindres effets. L'ovation fut générale, et le jury annonça une victoire à l'unanimité. Durant les longues salutations de Daphnae, Daïla avait rejoint Marvan et Soleia qui se promenaient d'un pas lent. « Ton ventre, Soleia, ça commence à se voir. » La jeune femme sourit et étreignit Daïla. « Est-ce que tu t'amuses, Daïla ?»« Oui, tu as vu comme Nox a gagné son épreuve, et sans le concours de l'esprit, c'est absolument incroyable !» Marvan échangea avec sa compagne un regard amusé. « Tu es bien une fille d'Aelbattre, dit-il. Que trouves-tu donc de si amusant dans cette compétition ?»« Mais le suspense, la bataille, quand j'aurai l'âge, je m'inscrirai à mon tour, comme Nox. »« Dans quelle discipline ?» demanda poliment Soleia. « Peut-être en calligraphie, » dit Daïla d'un air songeur. « Et vous, que faites-vous ici ?»«
Nous venons partager ce moment de fête avec tout le monde, » dit Marvan.
Le festival des âges est l'un des rares moments où la communauté se retrouve, appuya Soleia. Vous comptez toujours partir, n'est-ce pas? Fonder une communauté plus communautaire et moins compétitive. » Les deux jeunes gens rirent. « Oui, mais nous ne voulons pas partir sur un coup de tête. Ce n'est pas un voyage que nous voulons faire, mais une œuvre que nous voulons construire. Nous devons prendre notre temps. »«
Votre œuvre, » répéta Daïla.
« Cela me fait toujours bizarre de vous entendre parler ainsi. Quelle était celle de ma mère ?»«
Elle a transmis l'héritage des spiritualistes.
À vous ?» À nous, à toi, à qui veut s'en emparer. La pensée spiritualiste, grâce à elle, n'est pas morte avec la communauté. Et vous, vous allez ranimer la communauté.
En quelque sorte.
Daïla soupira. Cette perspective ne lui semblait guère exaltante. Je ne sais pas quel est mon héritage, finit-elle par déclarer. Parfois, je me sens la fille d'Irene, et parfois non. Je n'arrive pas à parler votre langage.
Tu es en devenir, Daïla, dit gentiment Soleia.
« Nul ne peut te demander de dire aujourd'hui qui tu es, car tu es encore en mouvement. À quoi ressemblera ta personnalité lorsqu'elle sera construite? Nul ne peut le dire. Et lorsque tu le sauras, tu sauras quelle est ton œuvre.
Est-ce que ma mère me jugerait mal parce que je m'amuse aujourd'hui ?»
Marvan éclata de rire. « Mais non, Daïla. Ta mère te dirait simplement de faire une place dans tes pensées pour t'interroger sur ton devenir. » Daïla hocha la tête, sceptique. Soleia utilisa une voix de verbe très douce qui endormit instantanément les scrupules et les questions de la petite fille. « Amuse-toi, Daïla, profite de ta journée.
mais rappelle-toi demain que la jouissance n'est pas le but de ton existence. » Le front de l'enfant redevint lisse et pur, et elle s'exclama de joie lorsqu'elle vit apparaître la vieille Morga aux abords de la Seine. « Elle va concourir !» dit-elle. En effet, la très vieille femme, avec des raideurs d'automate et une lenteur majestueuse, fendait la foule respectueuse en direction de la Seine. Les jeunes gens qui étaient là, Artus, Tibère, Cléo, Ciliane, l'aidaient à se hisser sur la première marche. Félix, qui devait se mesurer à elle, la suivit. « Où est Nox ?» demanda Artus, qui venait de se joindre au groupe. « Je voulais le féliciter pour sa victoire. » Tibère le regarda, un peu surpris, avant de répondre. « Je croyais que tu désapprouvais ce festival. »«
Moi ? Mais non, c'est Gretel qui le désapprouve, pas moi. »
« Avez-vous encore des sujets de dissension ?» demanda Cléo d'un air moqueur. « Nous pensions que vous étiez en accord parfait. »«
En fusion totale, » renchérit Tibère.
« Que vous ne faisiez plus qu'un, » ajouta Ciliane en se mêlant au jeu.
« Bref, » coupa Artus, « vous ne savez pas où est mon frère. »«
Il se prépare pour sa seconde épreuve, » dit Tibère avec admiration.
« Il a été autorisé à concourir deux fois, » s'étonna Artus.
Artus, tu devrais passer un peu moins de temps avec ta moniale, dit Tibère. On dirait que tu es devenu étranger à ton propre frère. Artus jouait un jeu serré. Il était indispensable que les proches de Nox fussent intimement persuadés de sa naïveté et de son infériorité. Cela faisait partie du plan, cela en avait toujours fait partie. Mais il fallait demeurer crédible. Artus était aussi un jeune homme intelligent et loyal, et il était amoureux. Laisser parler sa colère était donc la seule option possible.
« Je te prierai, Tibère, de ne pas utiliser ce terme insultant pour parler des spiritualistes. Nous sommes redevables à bien des égards à cette communauté. »«
Redevables ?» répéta Cléo. « Mais ils n'ont réussi qu'à mourir face à Sornard, et ne l'ont pas empêché de sévir. De quoi leur serions-nous redevables ?»«
D'avoir donné leur vie courageusement pour essayer de nous protéger. »«
Qu'ils essayaient de se protéger eux-mêmes. » »«
Je t'interdis de dire cela. Je te rappelle qu'outre mes sentiments pour Gretel, dont je ne fais pas mystère, Nox et moi avons également une petite sœur qui se trouve être la fille d'Irene. » Les spiritualistes ont aussi sauvé notre père. »
Les jeunes gens, avec un air ennuyé, firent machine arrière. « Ça va, Artus, ça va, on te taquinait. Nous n'avons rien contre les spiritualistes, à part que nous les trouvons mortellement ennuyeux. »
« Vous me taquinez bien souvent en ce moment. » « Comment se fait-il, reprit-il après un silence, que Nox ait été autorisé à concourir deux fois ?»«
Votre mère n'y était pas favorable, mais le jury a statué en sa faveur, en disant que le fait de se présenter à deux épreuves ne pouvait porter préjudice qu'à sa propre équipe. »
« À quelle seconde épreuve se présente-t-il ? Le sauton ?
Non, mon cher, la résistance à la douleur. »
Artus hocha la tête. Il n'osait imaginer comment Sornard allait s'y prendre pour résister à la douleur sans le secours de l'esprit. Allait-il sortir momentanément du corps de Nox ? Cette nouvelle l'inquiéta au plus haut point et il chercha des yeux son père.
« Si vous voyez Nox, félicitez-le de ma part, » dit-il en s'éloignant, « et souhaitez-lui bonne chance. » Il entendit rire les jeunes gens mais n'y prêta pas attention. Il se servit de l'esprit instinctivement pour repérer Keller dans la foule qui paraissait se densifier de minute en minute. L'épreuve de calligraphie commençait. Sur des vélins géants qui étaient tendus sur la scène, les deux participants réalisaient simultanément, à l'aide de divers pinceaux et d'encres variées, une œuvre calligraphique. Félix, qui excellait à cet art, travaillait avec facilité et élégance. Sous les yeux des spectateurs, le dit essentiel qui avait été choisi comme texte support, la diversité sublime de la vie jamais ne se résout en l'un, prenait une tournure graphique et formait à la fois un ensemble de signes et un tableau abstrait dans lequel les formes et les couleurs s'harmoniaient. Les mains agiles de Félix étaient fascinantes à observer, ainsi que les progrès inattendus de l'œuvre qui partait d'un ensemble de traits incompréhensibles pour aboutir peu à peu au sens et à la beauté. Morga, quant à elle, dans une lutte sublime contre sa vieillesse et contre ses mains arthritiques d'ouvrière teinturière, produisait, avec lenteur, une calligraphie épurée, d'un style un peu sec, mais d'une force indéniable. La vieille femme, incarnation touchante d'une ville basse tardivement éduquée, ne rivalisait pas avec la grâce facile du jeune homme, qui avait été béni par tous les raffinements de la nouvelle albâtre. Mais sa dignité forçait le respect. Artus remarqua que le jury avait les yeux bandés et devrait se prononcer sans connaître l'identité des calligraphes. La victoire ne reviendrait donc pas à Morga, mais elle avait conquis son public de la plus émouvante manière. Il n'attendit pas la délibération et poursuivit sa recherche de Keller qu'il finit par trouver discutant avec Aumont. Quelque chose lui parut étrange dans le maintien des deux hommes. Il connaissait leur amitié, leur familiarité, et il eut la sensation que quelque chose se trouvait entre eux, qui entravait leur intimité. Aumont, singulièrement, paraissait fuyant, et son air d'éternelle culpabilité s'était accentué. Artus se promit de chercher à savoir plus tard la raison de ce malaise et attira négligemment son père à l'écart. « Ses amis viennent de me dire que Nox va participer à l'épreuve de résistance à la douleur. Cette épreuve est impossible à gagner sans l'esprit, et il va probablement utiliser son pouvoir. Mais pourquoi prendre un tel risque? Il a toujours évité jusqu'ici de quitter Nox en public. C'est ce qui m'inquiète, dit Artus. Il ne le mettra pas en danger, pas maintenant. Non, mais il peut en profiter pour faire je ne sais quoi. Détruire l'amphithéâtre, posséder d'autres personnes dans la foule, s'engouffrer dans ton esprit ou dans le mien s'il a le moindre soupçon. Pourquoi ferait-il cela maintenant, en public, alors qu'il a la faveur de tous? Nous ne savons rien de sa stratégie, papa. À part une chose, elle nous prendra par surprise. C'est un esprit infiniment supérieur. Peut-être a-t-il intérêt à créer un nouveau chaos pour entourer sa seconde incarnation. Peut-être veut-il d'abord plonger la cité dans la terreur. Où serons-nous le plus en sécurité? Près du corps de Nox, aux premières loges. Une explosion de sifflets, graves et aigus, accompagnait la sortie de Morga, qui rayonnait de fierté malgré la décision du jury qui attribuait la victoire à Félix. « Rapprochons-nous, dit Keller. On me fait signe de m'avancer pour l'épreuve de ce temps. Qui dois-tu rencontrer? Ton ami, Tibère. N'en fais qu'une bouchée, je t'en prie. Je ne supporterai pas de l'entendre se vanter de sa victoire. » « Ne t'inquiète pas, Artus, dit Keller. Il n'est pas prévu que ce petit morveux gagne quoi que ce soit. » Tandis que Keller rejoignait la scène et se mettait torse nu pour se préparer à l'exercice de ce temps, Artus, toujours secondé par l'esprit, finit par apercevoir Nox tout en haut des gradins et commença à le suivre. Il n'était guère aisé de parcourir l'espace qui les séparait, car la foule était dense, concentrée sur le spectacle, et de plus, beaucoup de personnes de connaissance adressaient à Artus un salut ou un mot aimable auquel il était obligé de répondre. Nox était resté quelques instants au dernier rang, puis il avait pris la galerie supérieure, et Artus finit par le trouver. Il était accompagné de Daphnae, et tous deux se dirigeaient vers le jardin d'été, presque désert en ce moment où le festival battait son plein. Artus pouvait voir à plusieurs mètres de distance la tension sexuelle qui régnait entre eux, bien qu'ils ne se touchassent pas. Keller l'avait informé à demi-mot de la mission qu'il avait confiée à Daphnae, mais il ignorait totalement, jusqu'ici, si elle avait réussi dans son entreprise. La scène à laquelle il allait assister ne devait lui laisser aucun doute sur ce sujet. Le jardin d'été présentait de multiples alcôves de verdure, ainsi que des labyrinthes où les amoureux aimaient à se perdre. Artus vit Nox et Daphnae s'engager dans l'un d'eux et décida de les espionner en demeurant derrière une haie. Les amants s'arrêtèrent au bout de quelques mètres à peine et cédèrent presque immédiatement à la fureur de leurs désirs. Artus ressentait un profond malaise, mais ne put s'empêcher de regarder la scène les yeux grands ouverts. Sornar parlait peu et se montrait brutal. Les vêtements raffinés de Daphnae furent relevés comme pour un viol et Artus entendit distinctement le craquement d'une déchirure. Sornar, derrière Daphnae, la tenait par les cheveux, et chacune de ses pénétrations avait la force et la hargne d'un coup. Daphnae gémissait, de plaisir ou de douleur, et son allaitement suivait magistralement le rythme du sexe de l'homme. La grande comédienne jouait peut-être là son meilleur rôle, en simulant la montée de l'orgasme. Artus songea qu'elle avait intuitivement trouvé le seul point faible de leur ennemi, sa vanité. Sornar, avec un peu de chance, mourrait de son mépris et de son orgueil. Il poussa un râle à son tour lorsqu'il finit par jouir et lâcha la nuque de Daphnae avant de se retirer brusquement. Artus pouvait voir le visage de Daphnae d'où il était placé et mesura la transformation qui s'y opéra en quelques instants. De crispé et tendu qu'il était pendant l'acte, il devint ravi et tendre juste avant qu'elle se retournât. Par l'esprit, la volupté rayonne en toi par tous les pores. Daphnae ne répondit pas et rajusta ses vêtements lentement. « Il faut être un peu veule, reprit-il, pour prendre plaisir à ce que je t'ai fait. » Daphnae coula un regard humide, qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle éprouvait intérieurement. Elle ne pensait même pas à son corps endolori. Les lésions, la brûlure n'étaient rien. Elle en avait vu d'autres, et des plus violents que lui. Et son corps, après un bain, ressortait toujours jeune et parfumé, sans aucune trace de ses vices. Elle avait laissé passer bien des serpents entre ses jambes, et avalait bien des couleuvres en masquant sa peur et son dégoût. C'était à cela qu'elle s'était exposée, c'est cela qu'elle avait accepté quand Keller lui avait proposé ce marché. Elle n'avait jamais cru que Nox serait un amant délicat, cela se lisait dans son attitude, dans son regard. « Serais-tu disposée à m'en donner encore ?» demanda-t-elle d'un ton provocateur. « Ou ai-je enfin réussi à épuiser ton ardeur de jeune homme ?» Knox lui coupa la parole. « Ne sois pas vulgaire, s'il te plaît, j'ai horreur de ça. » « J'ai connu des amants plus raffinés, je m'adapte à mon public. Veux les vulgaires, soit, mais aussi volcaniques, vindicatives et venimeuses. » Sornard éclata de rire. « Et vive !» ajouta-t-il. Elle le regardait d'un air mutin, du moins c'est ce qu'Artus croyait voir à travers les feuillages. « Comment diable vas-tu faire pour résister à la douleur, mon pauvre enfant? Comme tous les hommes, tu n'es capable que de l'infliger. J'ai plus de ressources que tu ne crois. Ce sera le clou du spectacle. Ne sois pas vantard, s'il te plaît. J'ai horreur de ça. » Sornard sourit. « Mon père a dû dérouiller ce pauvre Tibère à l'heure qu'il est. Nous devrions redescendre avant qu'on s'inquiète de notre absence. Qui donc s'inquiéterait? Ma chère mère, par exemple. Je me demande s'il viendra un jour où son visage balafré cessera de surveiller Albâtre. Qui donc pourrait la remplacer? Quelqu'un de plus jeune, par exemple. Je ne sais pas si je suis favorable au remplacement de l'ancienne génération par la nouvelle. Cela ne serait guère à mon avantage. » Sornard cessa de parler et commença à marcher. « Je m'étonne que mon ego de frère, qui me suit partout, ne nous ait pas suivis jusqu'ici. » À ces mots, Daphnae regarda dans la direction d'Artus à travers le feuillage, et il se demanda si elle ne l'avait pas repéré, mais elle ne souffla mot. « Passons par là, tu veux? Il y a une rose des montagnes que je voudrais voir au passage. » Ce changement inopiné de direction permit à Artus de s'éclipser et de rejoindre les gradins avant leur retour. Le combat de Keller contre Tibère avait commencé. Tandis que ses yeux regardaient machinalement les évolutions des adversaires, son esprit se purgeait lentement du dégoût qu'il venait d'éprouver. Il était si étrange de voir ce corps et ce visage si semblables au sien se prêter à ses actes brutaux, à ses paroles dégradantes. C'était son propre reflet qui, libéré par magie de la symétrie qui lui avait été imposée, vivait sa vie dévoyée. D'une certaine façon, le mal était en lui, provenait de lui, et gardait son image. Artus fit appel à l'esprit longuement pour se détendre, et lorsqu'il fut à nouveau serein, il ressentit un besoin irrépressible de voir Gretel. Il descendit de plusieurs degrés jusqu'à se trouver derrière elle et la toucha délicatement par l'esprit. Elle se retourna aussitôt, et son visage pur, son sourire limpide, effacèrent toutes les corruptions dont il se sentait souillé. « Tu me manques, » lui dit-il mentalement. Son sourire s'accentua et elle articula silencieusement. « Toi aussi !» avant de se retourner. Son voisin de droite venait en effet, par un petit coup de coude, de la rappeler à son devoir de jury. À Eleanor, les lèvres entrouvertes, était absorbée par le spectacle et n'avait même pas remarqué la présence d'Artus derrière elle. Elle avait l'impression de voir Keller pour la première fois depuis un temps immémorial, de le voir de l'extérieur, alors que la proximité l'avait rendu presque aveugle pendant toutes ces années. Et elle prenait acte de cette évidence qui lui avait crevé les yeux. Keller avait grandi. Elle était tombée amoureuse d'un homme qui se sentait inférieur à elle, dont elle avait aimé presque malgré lui la détermination et l'indépendance. Aujourd'hui, Keller était devenu son égal, non seulement au niveau politique grâce à leur œuvre, mais au niveau personnel. Sa pierre frontale, ses cheveux blancs réunis en queue de cheval faisaient de lui un autre homme. Un charisme puissant émanait de sa personne, un charisme qui était actuellement perceptible par toute la cité réunie. Quand Tibère appliquait ses coups d'école, Keller maîtrisait un art. Le sautant avait été sa discipline, sa méditation, son salut, mais aussi son arme. Keller avait tué, et la façon dont il frappait, dont il retenait ses coups, portait le sceau de cette expérience cruciale, presque métaphysique, qu'il avait dû payer de sa mémoire. Tibère était juste assez fort pour faire durer le spectacle, mais il fut écrasé avec une élégance de maître. Keller, à peine décoiffé, n'était pas même en sueur. Il adressa au jury, et plus particulièrement à Eleanor, un salut protocolaire impeccable. Elle lui sourit, et il lui rendit son sourire. Ce fut un moment gracieux et suspendu, bientôt chassé par les acclamations et les sifflets qui marquaient la fin de l'épreuve. La fin du concours approchait. Ensuite, la fête serait ouverte, et les musiques, les danses, les dégustations et l'ivresse commenceraient. Les jeunes et les aînés totalisaient le même nombre de victoires, et la dernière épreuve devait les départager. La résistance à la douleur était une épreuve importante, moralement peut-être la plus importante de toutes, car elle résumait toute l'éthique d'Albâtre, la maîtrise de soi, le courage, l'acceptation stoïque de l'événement sur lequel on n'a pas de prise.
Convoquer l'esprit était naturel en cette occasion, même aux enfants, et tout le monde se demandait comment Knox, notoirement infirme de l'esprit, avait eu l'orgueil de croire qu'il pourrait se mesurer à un citoyen qui ne l'était pas. Mais Knox avait habitué Albatre à des exploits surprenants et avait alimenté les rumeurs, encore récemment, avec son escapade. Aumont, en particulier, l'observait avec un intérêt passionné. Ce garçon lui avait toujours paru intéressant et il lui avait consacré plusieurs pages de ses chroniques d'Albatre. Pour l'heure, dans une atmosphère plus sérieuse que pour les autres épreuves, les deux compétiteurs, Knox et Cardone, saluaient le jury. On avait demandé à Gretel de leur apporter les colliers de pression. Ces anneaux étaient munis d'aiguilles qui venaient faire pression sur certains nerfs, notamment dans le cadre médical. Mais un léger changement dans le mécanisme permettait d'infliger une douleur progressive en pinçant directement le nerf sans laisser la moindre séquelle. De ces colliers de pression modifiés, il n'existait que deux exemplaires en albâtre, et Gretel, qui paraissait bouleversée, était en train de les fixer au cou des deux hommes. « Nous nous apprêtons à lutter contre nous-mêmes, » récita Cardone. « Il vous est possible d'abandonner la lutte à tout moment, en actionnant le mécanisme du collier, » dit à Eleanor. « Mais cela entraînera votre défaite. Celui des deux qui tiendra le plus longtemps aura remporté la victoire. Toutes les manifestations de la douleur sont tolérées tant que vous prolongez l'épreuve. » Gretel s'assura, par une manipulation rapide, que les deux participants avaient bien compris le mécanisme d'ouverture du collier, puis elle retourna s'asseoir. À Eleanor regarda dans la fosse, et fit Artus et Keller, côte à côte, l'air grave. Sans doute s'inquiétaient-ils pour Knox. Quant à elle, elle ne pouvait se départir du sentiment de colère qui l'habitait depuis son escapade. Elle espérait secrètement la victoire de Cardone et l'humiliation de ce garçon, qui, pour être son fils, n'en était pas moins une incarnation de l'arrogance et de l'ambition. L'angoisse profonde qu'elle lisait sur le visage d'Artus, qui ne prenait pas la peine de cacher ses émotions, la dérouta. Pourquoi Artus était-il toujours si dépendant de son frère? Elle se souvenait avec tendresse de sa toute petite enfance et de son esprit indépendant. Il avait toujours été difficile de le faire obéir, jusqu'aux événements de la montagne. Et puis, le petit garçon fantasque et déterminé, qui pétillait de questions et de rires, avait cédé le pas à un enfant secret et renfermé, toujours à la traîne de son frère, dans son ombre. Et aujourd'hui, Artus, qui était peut-être de toute la cité celui qui était le plus capable de résister à la douleur, et qui aurait mérité l'ovation de la foule, se rongeait les sangs parmi les spectateurs, tandis que son frère, en éternelle vedette, s'exhibait sur la scène. Knox, pourtant, il fallait l'avouer, faisait peine à voir. D'abord, il avait été pris d'un grand spasme de tout le corps au moment où le collier avait été actionné. Puis, il avait ouvert des yeux affolés qui s'étaient mis à rouler dans leurs orbites de manière frénétique. Il avait ouvert la bouche, mais aucun cri n'était sorti de ses poumons. Il peinait à respirer, et seuls les spectateurs des premiers rangs l'avaient distinctement vu articuler deux syllabes. Artus. Knox avait fini par se réfugier au fond de la scène, contre une paroi, et s'était prostré, sans cesser de regarder tout autour de lui, avec des soubresauts pathétiques qui semblaient crucifier son corps. Cardone, de son côté, avait les yeux clos et faisait luire sa pierre frontale de manière continue et de plus en plus vive. Il respirait de manière régulière et semblait se concentrer sur une litanie intérieure. Beaucoup plus conforme aux enseignements d'Albatre, il affrontait la douleur avec toute la puissance de la culture, tandis que Knox, comme un animal piégé, avait fini par faire le mort. Aucun des deux, cependant, n'avait porté la main à son collier, et rien n'indiquait que le combat dût s'arrêter bientôt. À Eleanor, prise malgré elle de pitié pour ce fils qui paraissait à cet instant si désarmé, était bouleversée. Toute l'ambiguïté de ses retrouvailles avec Knox lui revint en mémoire, comme un souffle fétide et familier. L'horreur instinctive, la culpabilité, le dégoût, et par fulgurance, cet amour désolé qui la prenait aujourd'hui et qu'elle n'avait plus ressenti depuis plusieurs années. Son fils était à quelques mètres, défiguré par la douleur, effrayé. À travers la maturation de tous ses traits, il était à nouveau ce petit être de 3 ans qui surgissait d'un cachot, d'un espace indicible et inimaginable d'obscurité et de solitude. Il était à nouveau ce nouveau-né arraché dont la disparition avait failli causer sa propre mort. Elle chercha compulsivement Keller du regard et le trouva à quelques mètres d'elle aux côtés d'Artus. Le tableau qu'ils offraient ne lui apporta pas le soutien qu'elle cherchait, mais accrut plutôt son malaise. Artus, très agité, fixait son frère, l'appelait du regard, lui tendait son visage. Sa compassion pour lui à cet instant était une vraie douleur,
et à Eleanor, qui connaissait l'attachement d'Artus pour Nox, sa dépendance envers lui et son éternelle indulgence, ne s'en étonnait pas. Ce qui la choquait, c'était l'attitude de Keller. Résolument tourné vers Artus, il était le seul de toute cette foule à ne pas regarder Nox. Il n'avait Dieu que pour son autre fils, qu'il tenait fermement par le bras et à qui il murmurait des paroles inaudibles. Le regard d'Eleanor ne cessait de faire le va-et-vient entre la scène et la fosse, et son cœur entre la pitié et l'incompréhension. Ses deux fils étaient au supplice, et elle ne réfléchit pas avant de projeter son esprit dans une sorte d'instinct maternel vers eux. Cela ne dura qu'un instant, mais elle perçut distinctement tout l'envers spirituel de la situation, comme si, en pleine représentation théâtrale, on l'eût transporté en coulisses. D'abord, il était là, imprévu, immense, colossal, puissant comme un dieu. Cela ne dura pas, car il reflua presque aussitôt, mais Eleanor n'était pas vierge de cette terreur, et elle l'eût reconnu entre mille. Ensuite, ses fils étaient comme deux trous noirs, Nox, comme elle s'y attendait, mais aussi Artus, dont l'esprit était inerte, comme un membre mort. Son esprit évaluait la situation à toute vitesse, sa pierre frontale émettant une lumière presque aveuglante. Elle voyait Cardone donner tous les signes de l'épuisement mental, sa lueur frontale commençait à vaciller, et l'effort qu'il avait fourni ne pourrait se soutenir beaucoup plus. Nox, le visage hébété, laissait couler des larmes le long de son visage, sans chercher à les essuyer. Artus luttait, crispé, contre lui-même, et Keller? Keller l'aidait. Cela lui apparut dans un éclair lucide. Artus savait la présence de Sornar, et s'efforçait de cacher son pouvoir, et Keller l'aidait. Il connaissait le danger auquel il était exposé. Il comprenait l'enjeu beaucoup mieux qu'elle-même, comme s'il s'y était préparé. Bientôt, Cardone, le visage en sueur, actionna son collier de pression, et le soulagement de toute la foule éclata bientôt dans une bruyante agitation. Eleanor ne regarda pas Nox à cet instant. Elle ne vit pas son corps prostré, agité d'un nouveau spasme. Elle vit Artus relâcher ses traits et tomber dans les bras de son père. Nox venait de défaire son propre collier et saluait ses concitoyens après avoir chaleureusement félicité Cardone pour sa maîtrise de lui-même. Il avait le visage baigné de larmes, mais il avait retrouvé tout son aplomb, toute sa superbe, et elle devait reconnaître qu'il forçait l'admiration. Keller d'un bond rejoignit son fils et l'étreignit publiquement, dans un geste qui ne surprit personne et qui manifestait à la fois sa fierté, son soulagement, sa complicité de vainqueur. C'était un geste public qui étonna à Eleanor. Ne venait-elle pas de le voir se préoccuper exclusivement d'Artus? Le feu de l'action faisait jaillir la vérité nue, épurée des sentiments. Keller n'avait pas eu un regard pour Nox, qui subissait pourtant une agonie insoutenable. Keller partageait-il au fond son aversion pour Nox, et jouait-il la comédie de l'amour paternel devant toute la cité? Tout cela était si troublant qu'à Eleanor, la pierre frontale toujours allumée, en oublia la présidence du jury. Elle projeta à nouveau son esprit aussi loin qu'elle le put, mais il n'y avait plus nulle trace de Sornar. Tout était rentré dans l'ordre. Gretel, à côté d'elle, murmura « Je crois que vous devriez dire un mot. » Eleanor sursauta, ce qui fit rire la foule, et ce fut Cedric qui prit la parole à sa place. « Comme notre gouvernante a eu beaucoup d'émotions lors de ce festival, je me permets d'usurper sa prérogative et de clôturer pour elle cette magnifique compétition. » Les âges se sont affrontés avec une intensité sans égale, et la victoire, mes amis, appartient sans conteste à la jeunesse dont l'audace et l'habileté nous ont fait frémir et trembler. Quelques jours d'entière liberté leur sont donc accordés, selon la coutume, et je déclare que pour tous, l'heure des libations a sonné.